C'est le nombre ahurissant d'emplois qui vont être percutés de plein fouet par l'intelligence artificielle, la robotique et ce qu'on appelle les systèmes agentiques d'ici 2035.
Ouais, rien qu'au Maroc, en fait.
Rien qu'au Maroc, c'est ça. Et honnêtement, quand on tombe sur une donnée pareille, on comprend très vite que la question, c'est plus du tout de savoir comment on va vaguement sauver ses emplois.
Non, ça va bien au-delà de ça.
C'est plutôt comment on effectue une mise à jour complète, tu sais, de tout le système d'exploitation du pays avant que la machine ne plante complètement. Et c'est le point de départ de notre exploration en profondeur d'aujourd'hui.
Et le vrai défi avec ce genre de mise à jour, c'est qu'on ne peut pas juste éteindre la machine, installer le nouveau logiciel tranquillement et redémarrer.
Ça serait trop simple.
Ah oui, là, il faut vraiment changer la carte mère pendant que le véhicule roule à 130 km/h sur l'autoroute. C'est exactement la dynamique qui ressort de notre documentation du jour.
Absolument. Et pour comprendre comment on orchestre une telle manœuvre, on se plonge aujourd'hui dans une source d'une richesse vraiment incroyable. C'est le magazine iWeek.
Le numéro 127, c'est ça?
Exactement, le numéro 127 qui est publié par LODG Media.
On est en avril 2026 et ce document fait un arrêt sur image fascinant.
C'est une vraie radiographie en fait.
Voilà. Il dresse le portrait des mutations fulgurantes du Maroc à l'aube d'une décennie charnière, donc l'horizon 2030-2035. Et l'objectif de notre immersion, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment de décortiquer comment une nation articule sa souveraineté à tous les niveaux.
Parce que c'est lié, tout est lié. Bien sûr, on va parler de technologie pure, évidemment, mais aussi de ce qu'il y a dans l'assiette des gens, de la gestion des frontières sanitaires, de la formation des politiques, et même, tu vas voir, de géopolitique mondiale.
Ce qui est fascinant ici, c'est qu'il faut absolument refuser de penser en silo.
Comment ça?
Une crise sanitaire, un projet d'agriculture connectée, des manœuvres militaires dans le désert ou la construction d'un data center vert, ce n'est pas des dossiers isolés qu'on traite les uns après les autres.
C'est pas juste des ministères qui travaillent chacun de leur côté.
Exactement. Ce sont les rouages interconnectés d'une seule et même mécanique de survie. Si on ne comprend pas comment la donnée agricole influence la sécurité nationale, on passe complètement à côté de l'enjeu réel.
D'accord, je vois. Alors, justement, plongeons dans ce premier grand rouage. La source le qualifie de, et le terme est fort, de tsunami technologique.
Ouais, le fameux grand remplacement des tâches.
Voilà, le grand remplacement des tâches. Ça fait un peu froid dans le dos comme expression. J'ai vu passer des statistiques vertigineuses pour 2030, mais est-ce que tu pourrais nous poser les chiffres clairement pour qu'on mesure bien l'onde de choc de près?
Bien sûr. Les données sont effectivement massives. Si on regarde juste l'horizon 2030, la source identifie environ 1,5 million de postes soumis à une pression de transformation très élevée.
1,5 million, d'accord.
Et à ça, il faut ajouter 3,1 millions de postes qui sont des candidats directs à une transformation notable. Donc ça nous amène à un total de 4,6 millions d'emplois affectés à très court terme.
Et ça, c'est juste la première vague.
Exactement, parce que si on pousse la projection jusqu'en 2035, là, la vague grossit encore. On a 2,9 millions de postes qui basculent en risque très élevé. Et c'est là qu'on atteint ce fameux plafond de 8 millions d'emplois touchés par l'IA et l'automatisation.
C'est colossal, mais attends, le texte mentionne l'impact de l'IA, de la robotique et des systèmes agentiques. C'est un peu le nouveau mot à la mode dans la tech. Mais pour quiconque nous écoute en ce moment, en quoi un système agentique, c'est différent d'un, je sais pas, d'un simple chatbot d'IA qu'on utilise tous les jours pour rédiger un mail?
C'est une distinction fondamentale pour comprendre pourquoi l'impact sur l'emploi est si énorme. Un chatbot classique, il attend tes instructions.
Il est passif, en gros.
Voilà. Tu lui donnes un prompt, il te donne un texte. C'est tout. Un système agentique, par contre, il est doté d'une vraie capacité d'action et d'autonomie.
Donc il agit tout seul.
En fait, tu lui donnes un objectif complexe. Par exemple, tu lui dis « optimise la chaîne d'approvisionnement de ce mois-ci ». Et là, l'agent va lui-même diviser la tâche en sous-tâches.
Ah ouais, d'accord.
Il va interroger des bases de données, envoyer des requêtes à des fournisseurs, analyser les réponses et même prendre des décisions d'achat. Il ne se contente plus du tout de générer du texte, il exécute des processus de A à Z.
Donc c'est littéralement un assistant exécutif virtuel.
C'est ça. Et c'est pour ça que la source insiste bien sur le fait qu'il s'agit d'une substitution de tâches, pas forcément d'un effacement pur et simple de l'humain.
D'accord. Donc le modèle économique tout entier doit pivoter. Le document explique qu'on doit passer du Maroc à Telier, tu sais, ce pays dont l'avantage compétitif historique reposait pas mal sur une main-d'œuvre à bas coût, pour l'assemblage.
Ouais, le modèle classique.
Pour aller vers une plateforme intelligente. Et ça repose sur trois piliers technologiques. Le premier m'interpelle particulièrement, c'est la smart agriculture.
L'agriculture intelligente, oui, cruciale.
Surtout qu'on le sait, le stress hydrique, la sécheresse, c'est une réalité brûlante. Et l'idée avancée, c'est plus de produire massivement à tout prix, mais de produire mieux avec moins d'eau.
Grâce aux capteurs, aux drones et aux IA prédictives.
Exactement. Mais là, j'ai une objection, une vraie question pratique. C'est formidable sur le papier. Mais comment un petit agriculteur traditionnel, qui n'a peut-être même pas de smartphone récent, va pouvoir financer et piloter un drone multispectral pour irriguer son champ?
C'est la question que tout le monde se pose.
Parce qu'on risque pas de créer une fracture béante, là? De laisser des millions de personnes sur le bord de la route?
Il y a un risque de fracture énorme, c'est évident. Et c'est précisément pour ça que la technologie seule, bah, ça suffit pas. Il faut une innovation sociale à côté.
C'est-à-dire?
La réponse apportée par l'analyse, ça repose sur le concept de coopérative numérique. L'objectif, c'est absolument pas de forcer chaque petit exploitant à s'acheter un drone à 10 000 euros.
Heureusement.
L'idée, c'est de mutualiser toute l'infrastructure. La coopérative, elle possède la technologie, elle agrège les données météo et satellitaires.
Et ensuite ?
Ensuite, un agronome qui est équipé d'une interface très simplifiée, il dit à l'agriculteur, le FELA, comme le précise bien le texte, exactement quand et quelle quantité d'eau utiliser pour irriguer.
Donc le fermier bénéficie de l'IA sans avoir à manipuler l'IA directement.
C'est ce que la source appelle « devenir un agriculteur augmenté ». Mais attention, cette transition, elle cache un enjeu technique bien plus lourd en arrière-plan.
Ah bon, lesquels ?
Le stockage de toutes ces données.
Exactement. Parce que pour dire à des milliers d'agriculteurs comment optimiser chaque goutte d'eau en temps réel, il faut ingérer des terabits de données tous les jours.
Et ça tourne pas sur un petit ordinateur de bureau.
Non, ces algorithmes y tournent sur des serveurs colossaux. Et c'est là que le deuxième pilier entre en jeu, l'IT, les data centers et le cloud. La source met vraiment en garde contre la fuite de valeur.
Ah oui, je vois. Si l'IA qui gère l'agriculture nationale, elle est hébergée sur des serveurs en Californie ou en Asie, on perd non seulement la valeur économique, mais surtout le contrôle stratégique. C'est exactement ça. D'où l'ambition affichée de faire du Maroc un véritable hub cloud africain.
Et alimenté par de l'énergie verte, précise le texte. Et l'énergie verte, on est d'accord, c'est pas juste pour faire joli sur la plaquette écologique.
Ah non, pas du tout. C'est parce que ces data centers, ça dévore une quantité d'électricité phénoménale. Le vent et le soleil, c'est carrément la matière première de l'intelligence artificielle aujourd'hui.
C'est vertigineux quand on y pense.
C'est la boucle de la souveraineté moderne. T'as pas de souveraineté alimentaire sans IA, t'as pas d'IA sans data centers, et t'as pas de data centers rentables et indépendants sans énergie verte domestique.
Tout est lié. Et cette logique d'infrastructure, j'imagine qu'elle s'applique aussi au troisième pilier IA, l'industrie et ce que le magazine appelle la cobotique.
Absolument.
Mais alors, cobotique, c'est encore un terme très spécifique. On parle tout le temps de robotique, mais la cobotique, concrètement, comment ça se matérialise dans une usine ?
Imagine une ligne d'assemblage automobile classique des années 90. Les robots industriels, c'était d'immenses bras articulés, aveugles, enfermés derrière des cages de sécurité.
Parce qu'ils écraseraient n'importe qui sur leur passage.
Voilà, c'était super dangereux. La cobotique, c'est l'association du robot et de l'humain dans le même espace physique, sans cage.
Ah, ils travaillent côte à côte.
C'est ça. Le cobo, il est bourré de capteurs spatiaux, de caméras, de capteurs de force. Si tu le touches à peine, il s'arrête instantanément. Il est juste là pour porter la pièce de 50 kg, pendant que l'opérateur humain réalise le geste très fin ou le contrôle qualité.
Donc l'ouvrier ne disparaît pas, il change de fonction.
C'est une redéfinition du travail.
D'ailleurs, la source cite même les nouveaux métiers qui émergent avec ça. On parle de mainteneur de systèmes robotiques, de responsable en cybersécurité industrielle ou encore d'orchestrateur humain d'agents IA.
C'est un changement de paradigme vertigineux.
Mais, et c'est là qu'on passe à un autre niveau. Pour piloter des chantiers d'une telle ampleur, pour construire ces data centers, déployer ces réseaux, il faut une infrastructure physique irréprochable. Et surtout, des cerveaux politiques capables de comprendre ces enjeux. Ce qui nous fait basculer de l'ingénierie technologique à l'ingénierie physique et politique.
Et c'est une bascule vitale. Parce que le code informatique le plus brillant du monde, il sert strictement à rien si les routes pour acheminer le matériel sont coupées ou si les ministères qui doivent légiférer sur tes données sont complètement opaques.
C'est très juste. Et ce besoin de clarté, il est parfaitement illustré par une initiative récente du ministère de l'Équipement et de l'Eau. C'est la plateforme Observatoire des projets.
Oui, un outil très intéressant.
C'est un portail en ligne qui centralise les données sur les projets d'infrastructure, donc les routes, les ports, l'hydraulique et même la météo. Et le ministre, Nizar Baraka, y évoque par exemple le projet colossal du tunnel de l'Ourika.
Un projet indispensable pour désenclaver les zones montagneuses entre Marrakech et Ouarzazate, oui.
Mais là, je me fais l'avocat du diable une seconde. Avoir un site web avec la liste des chantiers en cours, c'est super. Mais est-ce qu'on risque pas de simplement noyer le citoyen sous un déluge de fiches techniques et de budgets complètement illisibles?
C'est le risque de l'infobésité, oui.
Du coup, en quoi ça change la gouvernance pour monsieur et madame tout le monde?
Sur le moment, face à l'avalanche de données brutes, c'est sûr que le citoyen lambda va pas s'amuser à vérifier chaque ligne budgétaire tous les matins.
On a autre chose à faire.
Mais la véritable mécanique derrière cette transparence, c'est la création de ce qu'on appelle une base de vérité opposable.
Une base de vérité opposable.
En fait, avant, pour savoir pourquoi une route n'avançait pas, l'information était fragmentée, souvent inaccessible. En centralisant la donnée publiquement, l'État s'oblige lui-même à rendre des comptes.
Ah, je vois l'idée.
Les journalistes d'investigation, les chercheurs, la société civile, ils peuvent extraire ces données, créer des tableaux de bord beaucoup plus lisibles et pointer du doigt les retards. C'est un levier de pression énorme qui modifie le comportement même des décideurs publics.
C'est hyper puissant, en fait. Et justement, pour que ces décideurs comprennent l'urgence de notre époque, il faut du sang neuf. Et c'est là que l'analyse devient vraiment stratégique, avec le projet politique AMAL 2026.
C'est une initiative fascinante.
Porté par le réseau TISI, qui fête d'ailleurs ses 15 ans dans la source, et le MLI, le Moroccan Leadership Institute, avec l'appui de la fondation Heinrich Böll. Le but affiché, c'est de former 100 jeunes de moins de 35 ans pour les préparer aux élections législatives de septembre 2026.
Et le plus important là-dedans, c'est la répartition ?
Exactement, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les quotas imposés pour cette formation sont très spécifiques. 33% de femmes, 33% de jeunes issus des partis traditionnels, et surtout, 33% d'indépendants.
Et si on relie ça à la vision d'ensemble, ce dernier tiers est de loin le plus révélateur.
Pourquoi les indépendants en particulier ?
Bah, comment tu fais évoluer un écosystème législatif qui est souvent perçu comme lourd et lent ? Face à des technologies qui évoluent de manière exponentielle. Tu peux pas juste ignorer le Parlement.
C'est eux qui votent les lois à la fin.
Exactement. La stratégie d'AMAL 2026, c'est d'agir un peu comme un cheval de Troie de l'innovation. En intégrant 33% de candidats indépendants, tu captes des profils qui viennent peut-être de la tech, de la société civile.
Des jeunes qui sont peut-être désabusés par la politique classique, mais qui sont experts dans leur domaine.
C'est ça. En les formant et en les poussant vers l'hémicycle, on injecte littéralement le nouveau code source directement dans l'Assemblée nationale.
C'est brillant. Vraiment. Avoir une vision à 10 ans, c'est crucial. Mais la souveraineté, et c'est peut-être le plus dur à avaler, c'est aussi la capacité d'un État à gérer les urgences du mardi matin.
Le court terme, oui.
Avoir un plan IA incroyable pour 2030, ça sert à rien si le pays craque sous les crises immédiates la semaine prochaine. Et notre source foisonne d'exemples sur cette tension entre le long terme et l'immédiat.
C'est le grand écart permanent.
Regardons la gestion des frontières face aux risques sanitaires. Le magazine rapporte une alerte autour du hantavirus. C'est un virus grave transmis par les rongeurs.
Un scénario catastrophe.
Totalement. Un navire de croisière, le MV Ondus, s'est retrouvé bloqué au large du Cap-Vert suite à 3 décès à bord.
C'est le genre de situation ultra volatile. Un huis clos épidémique sur l'océan qui exige des décisions drastiques et rapides.
Absolument. Et on apprend qu'un avion médicalisé qui était censé évacuer des personnes depuis ce navire a demandé à atterrir en urgence à Agadir pour des raisons techniques. La réponse des autorités marocaines ?
Un refus catégorique. L'avion a dû être dérouté vers les îles Canaries, c'est ça ?
C'est ça. La source décrit cette décision comme l'application d'un réflexe de précaution post-Covid vraiment ferme et assumé. En gros, on ferme la porte sanitaire à double tour. Mais le truc fou, c'est qu'en parallèle de cette fermeté absolue, on apprend que le marché a autorisé l'importation de volailles portugaises.
Oui, avec des contrôles sanitaires stricts, bien sûr.
Bien sûr. Mais l'objectif, c'était de casser la flambée des prix de la viande blanche face à une demande locale explosive. Et là, il faut vraiment qu'on s'arrête pour décortiquer la logique, parce que c'est troublant.
C'est-à-dire ?
Dans notre premier chapitre, on parlait d'atteindre une souveraineté alimentaire totale grâce aux drones et à l'IA. Et là, face à l'inflation, la solution immédiate, c'est d'importer des poulets d'Europe. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement ? N'y a-t-il pas une contradiction majeure ?
Ça a l'air contradictoire, mais c'est ce qu'on appelle la réelle politique de la gestion publique. En fait, la contradiction n'est qu'apparente.
Comment ça ?
Il faut séparer l'action tactique de la résilience structurelle. L'importation de volailles portugaises, c'est un extincteur. T'as le feu sur le pouvoir d'achat aujourd'hui, tu l'éteins tout de suite avec les moyens disponibles pour éviter des troubles sociaux.
D'accord, c'est l'urgence.
L'agriculture intelligente par coopérative numérique dont on parlait, ça, c'est la construction d'un bâtiment inifugé pour les 10 prochaines années. Tu vois la différence ?
C'est une super métaphore.
Un État peut tout simplement pas financer ou demander à sa population d'accepter des transitions technologiques complexes si cette même population n'a plus les moyens d'acheter des protéines de base. L'urgence économique prime toujours sur le dogme de l'autosuffisance à court terme.
Et justement, en parlant d'économie et de pouvoir d'achat, il y a un chiffre dans les sources qui vient violemment télescoper nos beaux discours sur l'inclusion.
Ah, le rapport sur les richesses ?
Voilà, c'est le rapport The Wealth Report 2026 du cabinet Knight Frank. Ce rapport, il analyse la population des ultra-riches, donc ceux dont le patrimoine dépasse les 30 millions de dollars.
C'est une catégorie très sélecte.
Au Maroc, ils étaient 305 en 2021. Aujourd'hui, ils sont 432. C'est un bond spectaculaire de 41% en seulement 5 ans. Et pour mettre ça en perspective, pendant qu'on explique qu'il va falloir mutualiser des drones dans des coopératives pour que le petit agriculteur ne meure pas de faim, la concentration des immenses capitaux s'accélère à une vitesse folle.
Et ça, ça soulève une question essentielle. C'est le grand péril de l'économie de la donnée. L'intelligence artificielle et le cloud, c'est des machines incroyables à créer de la valeur, mais ce sont aussi des machines à concentrer cette valeur entre les mains de ceux qui possèdent l'infrastructure de base.
Ceux qui possèdent les serveurs et les câbles, en gros.
Exactement. Si la richesse créée par cette modernisation fulgurante n'irrigue pas le reste de la société par des mécanismes de redistribution, le risque n'est plus seulement économique. Il devient sécuritaire.
La fracture sociale.
Une société à deux vitesses, où l'hypertechnologie côtoie la précarité extrême, c'est une société structurellement instable.
Or, cette stabilité interne, c'est pas juste là pour faire joli ou pour gagner des élections. C'est en réalité le bouclier indispensable du pays face aux secousses extérieures. Ce qui nous amène à observer l'échiquier géopolitique évoqué par la source.
Et là, ça se corse.
C'est un peu comme l'ingénierie d'un pont suspendu, en fait. La diplomatie, la force militaire opérationnelle et l'influence culturelle, ce sont les câbles de tension. Si un seul câble cède, toute la crédibilité de la structure s'effondre.
C'est une excellente façon de le voir.
Et sur le plan institutionnel et sécuritaire, on note une dynamique forte avec la nomination de Son Altesse Royale le prince héritier Moulay El-Hassan en tant que coordinateur des bureaux et services de l'état-major général des forces armées royales.
C'est une incarnation très claire de la continuité stratégique. Dans une région soumise à de fortes turbulences, garantir la modernisation et la pérennité de l'appareil de défense, c'est le prérequis absolu de toute politique d'investissement.
Parce que les investisseurs ont besoin de sécurité.
Personne ne va venir construire un data center cloud à des milliards de dirhams dans un pays qui ne maîtrise pas son environnement sécuritaire. C'est la base.
Et cette maîtrise sécuritaire, elle se démontre sur le terrain, en temps réel. Le document relate une opération de recherche d'une ampleur vraiment impressionnante. Plus de 600 militaires mobilisés.
Avec des hélicoptères, des drones, des plongeurs.
C'est ça. L'objectif, c'était de retrouver deux soldats américains portés disparus au large de Cap Dra, près de Tantan, en marge des grandes manœuvres de l'exercice militaire African Lion.
Une opération conjointe massive.
Et sur un autre câble de notre fameux pont suspendu, le câble diplomatique cette fois, on voit l'ambassadeur américain Duc Buchan III en visite à Dakhla.
Il y a salué la coopération médicale, il me semble.
Oui, avec la garde nationale de l'Utah, tout en soulignant publiquement l'avenir prometteur de la région. Et enfin, sur le câble du soft power, parce qu'il en faut, Rabat, qui est désigné pour organiser le 77e congrès électif de la FIFA.
Des événements en apparence très différents, on est d'accord, mais qui convergent totalement.
C'est un peu comme assister à une partie d'échecs sur plusieurs plateaux simultanés, tu vois ?
C'est exactement ça. Ce que la communauté internationale observe à travers un exercice comme African Lion ou un événement mondial comme la FIFA, c'est la bande passante logistique d'une nation.
Sa capacité à gérer la complexité.
Un pays capable d'orchestrer la synchronisation de 600 militaires et de moyens aéronavals pour un sauvetage, il est perçu comme un partenaire d'une extrême fiabilité. Et c'est ça qui donne le poids nécessaire pour naviguer dans un climat mondial particulièrement instable.
Et ce climat dégradé, notre source l'illustre d'une manière assez saisissante avec une dépêche internationale.
Alors là, il faut qu'on fasse une petite pause.
Oui. Tout à fait. Je précise immédiatement pour notre audience que notre démarche ici est purement analytique. La source nous livre une information breaking news qui illustre la volatilité actuelle et on l'aborde sans aucune approbation, sans prendre parti pour aucun camp. On reste strictement neutre.
On ne fait que relayer les faits tels qu'ils se sont imprimés dans le magazine.
Exactement. Donc, le magazine rapporte que le président américain Donald Trump maintient un cessez-le-feu en vigueur avec l'Iran. Et ce, malgré un événement militaire majeur.
Une attaque dans le détroit d'Ormuz, c'est ça?
Voilà. Une attaque impliquant des missiles et des drones iraniens qui ont ciblé 3 destroyers américains. Selon la retranscription de la source, Donald Trump s'est exprimé sur son réseau Truth Social, affirmant que les assaillants ont été détruits. Et il a qualifié l'incident de simple broutille.
Une broutille, carrément.
C'est le mot utilisé, oui. Tout en laissant quand même planer la menace de représailles futures.
Eh bien, cet incident, et surtout la manière dont il est géré, ça résume à lui seul l'incertitude terrifiante des chaînes d'approvisionnement mondiales aujourd'hui.
Parce que le détroit d'Ormuz, c'est stratégique.
C'est l'une des artères énergétiques de la planète. L'enjeu de cette information, c'est pas la petite phrase politique, c'est de comprendre la mécanique des dominos.
Si le détroit bloque, tout bloque.
Si une broutille militaire dégénère là-bas, le coût de l'assurance maritime explose, le prix de l'énergie flambe, l'inflation s'envole instantanément.
Et soudainement, importer de la volaille du Portugal pour calmer les prix locaux, bah ça devient économiquement impossible.
Exactement. Et c'est à cet instant précis que le pays réalise brutalement pourquoi il était vital, des années plus tôt, d'investir dans l'agriculture intelligente, l'énergie verte et des coopératives numériques indépendantes.
Ah, la boucle est bouclée.
C'est le test de résistance finale.
C'est vraiment le fil rouge magistral de cette immersion dans l'horizon 2030-2035. En fin de compte, qu'on analyse l'architecture des données cloud, la résilience d'un champ de blé face à la sécheresse, l'imperméabilité d'un aéroport face aux hantavirus ou l'équilibre d'une manœuvre militaire à tant temps, tout converge vers un seul impératif.
L'autonomie stratégique face à l'imprévisible.
L'autonomie stratégique, oui. On réalise que mettre à jour ce système d'exploitation, c'est définitivement pas un luxe technologique. C'est la condition sine qua non de la survie d'un État.
Et tu sais, toute cette modernisation nous amène au bord d'un vertige philosophique par lequel j'aimerais qu'on conclue.
Je t'écoute.
Si on tire les fils de toutes ces données jusqu'en 2035, si les champs sont arrosés par des décisions algorithmiques, si le travail physique pénible est absorbé par la cobotique et que la complexité administrative est gérée par des systèmes agentiques.
Ce qui est en train d'arriver.
Une question profonde émerge pour nous tous. Une fois que la machine et l'intelligence artificielle se chargent de l'essentiel du maintien en condition de la société, comment allons-nous, collectivement, redéfinir la notion même de mérite, d'effort et d'accomplissement humain? Face à un système devenu si performant, quelle sera notre véritable mission?
Waouh! C'est une question vertigineuse et ça clôture parfaitement notre analyse des dynamiques de demain. Un grand merci à quiconque nous a accompagnés dans cette plongée au cœur des rouages souverains de la prochaine décennie. Prenez soin de vous et gardez toujours l'esprit ouvert sur ces mutations en cours. À la prochaine.